Nous allons parler création à travers l'histoire de l'une des grandes figures du stylisme africain. Le grand styliste créateur Pateo est notre invité. Aujourd'hui, aux commandes, c'est Léonce Kouakou, il me semble. Bonjour Léonce, comment ça va, Babi, ce matin?
Bonjour Aïssa, ça va très bien, Babi. On a un beau soleil.
Bon, nous, tout va bien. On a un peu la pression de recevoir cette grande figure qui est Pateo. Je ne m'en cache pas. Bonjour à vous, cher Pateo. Alors, c'est une véritable success story que nous allons raconter à travers votre histoire, votre parcours, parcours passionnant, hors norme, arrivé sans le sou en Côte d'Ivoire fin des années 60, début des années 70. En 50 ans, vous avez réussi à impacter la mode africaine et à devenir l'habilleur des grands de ce monde. Et surtout l'habilleur officiel de cette grande figure qui était Nelson Mandela. Merci de nous rejoindre, Pateo, vous allez bien?
Bonjour, très bien, ça va.
Bienvenue alors des reines de beauté au président en passant par les artistes, les directeurs de société, tous les grands d'Afrique et d'ailleurs rêvent ou ont rêvé de porter du Pateo. Déjà bravo pour cela, Pateo.
Oui, mais disons que... Un Africain qui habille les Africains, en principe, ça ne devrait pas être étonnant. C'est quand il ne s'habille pas chez les Africains qu'il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il s'habille ailleurs?
Et c'est vrai que...
Comme ça, on prend la chose.
Ça a beaucoup évolué. C'est vrai qu'au-delà de vos origines, vous êtes un véritable panafricain, hein, Pateo, puisqu'aujourd'hui, vous avez donc une vingtaine de boutiques sur le continent africain, alors au Burkina Faso, au Mali, en Angola, au Gabon, au Cameroun, au Congo, et 6 à Abidjan, votre ville de cœur, en Côte d'Ivoire, votre pays d'adoption. Vous êtes aujourd'hui, en tout cas la marque est devenue une véritable institution. Est-ce que c'était important pour vous également d'être installé au-delà de la Côte d'Ivoire et au-delà du Burkina Faso, Pateo?
Oui, au départ, il faut dire que le couturier, de façon générale, en Afrique, quand on est couturier, on est dans son atelier, on attend la clientèle qui arrive, des rendez-vous, très, très souvent qu'on n'arrive pas à respecter. Et puis bon, si vous avez beaucoup de la clientèle, que vous êtes obligé de faire toutes ces demandes-là, des fois vous êtes... Et d'abord, l'atelier n'étant pas trop grand, vous n'êtes pas obligé, vous ne pouvez pas respecter le rendez-vous. Et ça vous contraint même de ne pas pouvoir créer des choses propres à vous.
Oui.
Donc, pour moi, après, je me suis dit, bon, écoutez, bon, si je dois tourner pendant des années dans ce petit atelier, c'est difficile. D'abord, je suis obligé, on m'impose les modèles, la clientèle vous impose leur choix.
Oui.
Alors, des fois, vous n'avez pas vraiment la possibilité de créer... d'imaginer ou d'innover. Voilà, donc je me suis dit, ok, on va essayer en créant des boutiques pour voir comment ça va se passer. Mais il faut dire qu'au départ, c'était pas guerre. Parce que la première boutique que j'ai ouverte à Yamoussoukro en 96. Et j'assure que c'était décevant quand même parce que c'était la première fois qu'on voyait une boutique entièrement avec les vêtements faits en Afrique, les vêtements faits par des Africains, rien que ça. Alors les gens, ils rentraient dans la boutique, ils regardaient, ils sont étonnés. Ils posaient même la question à la vendeuse, mais madame, vous ne vendez pas autre chose. Ça veut dire que ce qui est là, ça ne les intéressait pas. Ce n'était pas pour eux. À l'époque, tu ne peux pas convaincre un Ivoirien d'un niveau de porter une chemise faite à Abidjan pour sortir. Ce n'est pas possible.
Ouais.
Et aujourd'hui, avec le temps, on s'est battu. On a tout fait pour les convaincre en travaillant beaucoup plus, en disant que les autres ne font pas mieux que nous. Donc, il faudra qu'on arrive quand même. Ça va pourquoi les gens n'acceptent pas ce que nous faisons. Donc, il fallait travailler plus, faire beaucoup de recherches, aller vers eux, et leur faire croire que ce que nous faisons n'est pas aussi moins beau que ce que les autres font ailleurs. Voilà. Donc, petit à petit, maintenant, ça a commencé à prendre. Et puis, bon... C'est comme ça que c'est parti.
C'est d'ailleurs un travail fastidieux que vous avez entrepris il y a 50 ans, justement, puisqu'aujourd'hui, vous êtes l'un des farouches défenseurs de la mode africaine. Vous venez de le dire et vous n'avez cesse de militer en faveur du développement d'une industrie du prêt-à-porter sur le continent. Alors, j'ai vu dans une de vos interviews que vous avez dit « Nos marchés sont inondés de fripes arrivées d'Occident. Les Chinois fabriquent désormais du bogolan au Mali. En Éthiopie, ils ont des fabriques de vêtements qu'ils exportent ensuite vers chez eux. » C'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque donc cet engouement mondial pour les tissus africains. Alors, est-ce que cet engouement profite à l'Afrique? C'est la première question. La suivante, c'est comment profiter de cet engouement pour faire avancer à l'industrie de la mode sur le continent, Patéo?
Bon, on va dire que bon, d'une manière ou d'une autre, bon, c'est l'Afrique qui se vend, mais généralement, tout ce qui est fabriqué en Afrique ne profite pas à l'Afrique, parce que très souvent, les gens ils fabriquent, mais ou du moins, ils ont des usines pour fabriquer, ou du moins, reprendre les motifs africains, mais en tout cas, c'est beaucoup plus à l'extérieur de l'Afrique qui s'est vendu. Oui. Que l'Afrique elle-même ne consomme pas ce qui est en Afrique, déjà. Et ça, déjà, c'est un combat qu'il faut mener. Ensuite, ceux qui viennent fabriquer et qui vont le diffuser ailleurs, ça ne profite pas l'Afrique. C'est juste peut-être l'État dans lequel s'est installée l'usine qui ça profite, mais pas l'Afrique, parce que l'Afrique ne voit même pas passer ces modèles-là très souvent.
Oui.
Maintenant, comme petit à petit, il y a une vulgarisation de tout ce qui est matière africaine, tout ce qui est tissu, tissé, fait main à l'Afrique, en Afrique ici. Donc forcément, il y a un côté, on va dire, bénéfique pour l'Afrique parce que ça interpelle quand même les Africains que tout ce qui est en Afrique n'est pas médiocre. Donc ils vivent sur des choses superbes, mais ils piétinent pour passer. En fait, c'est ça. Donc du coup, il y a ce côté positif qui est que ces choses sont vues en Afrique. On dit que l'Afrique regorge aussi des choses bien. Mais en même temps, ces choses sont faites pour d'autres côtés. Donc, du coup, ça ne bénéficie pas tellement l'Afrique, mais un côté, ça bénéficie aussi parce que ça interpelle quand même les gens de dire, écoutez, on n'est pas ridicule quand on porte ce qui est africain. Voilà.
Alors justement, votre particularité, c'est de travailler ces matières hein, qui proviennent du continent, qui sont faites par des artisans également sur place, notamment le Faso d'Anfani. Et d'ailleurs, il y a une autre grande figure, hein, au-delà de Nelson Mandela, dont on parlera tout à l'heure, c'est Thomas Sankara, qui vous aurait poussé à vous pencher sur ce tissu burkinabé, le Faso d'Anfani. Et c'est important pour vous également de travailler les tissus d'Afrique. Alors, ça va du voile mauritanien, en passant par le batik, le voile teinté, le basin, l'indigo. Alors, votre matière première, c'est justement ces tissus qui sont véritablement des tissus africains, Patéo.
Mais il faut dire qu'au départ, c'était pas... on n'avait pas le tissu d'or. Toutes les matières africaines dorment. Il n'y a pas... C'est pas vivant. Donc, moi, pour la première fois, quand j'ai rencontré Sankara, en 87, hein, 87.
Oui. Oui.
Alors, il m'a dit comme ça, dans la discussion, il m'a dit, écoute, admettons que vous êtes deux à passer un texte. L'autre porte un costume, l'autre porte une tissu en face d'Anfani. À la fin du test, on demande qui a été, on va dire, le meilleur des candidats.
Oui.
On ne demande pas qui a porté quoi pour être là. Voilà, donc finalement, il s'est prouvé que il a été aussi quelqu'un, c'est lui qui aujourd'hui, le Faso d'Anfani, ça va être peut-être une industrie pour demain pour le Burkina. Donc,
oui.
Il y a tellement de tisserands, de tisseuses, mais énormément de choses. C'est superment fait maintenant. À l'époque, la couleur n'était pas fixée. Aujourd'hui, Ça ne déteint pas, ils font aussi des largeurs assez acceptables pour les couturiers.
Oui.
Avant, c'était les 20 cm et autres. Aujourd'hui, ils arrivent à 50, voire 100 cm, 101 mètres de large. Donc, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Et maintenant, ils ont travaillé aussi la finesse du tissu. Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, ça, c'est des choses que l'Afrique peut aussi imiter, hein, parce que ça, ce qui se fait au Burkina aujourd'hui, c'est extraordinaire.
Alors, justement, pour raconter votre histoire hein, qui est vraiment très intéressante, très touchante, vous arrivez à l'âge de 14 ans en Côte d'Ivoire qui est devenu votre pays d'adoption et vous dites à l'époque, toute la sous-région se retrouvait en Côte d'Ivoire pour trouver un emploi. Alors, vous dites que vous êtes arrivé dans le milieu de la mode par nécessité plutôt que par passion. Vous nous racontez un petit peu cette histoire, votre arrivée à Abidjan et vos premiers pas dans cet atelier donc accueilli par une personne qui vous a tendu la main, Patéo.
Oui, bon, pas nécessité parce que tout simplement quand on, On quitte son village étant très 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 jeune. On arrive en Côte d'Ivoire, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'on veut chercher où on va. Et puis, dans un premier temps, on a travaillé D'abord, on n'avait pas le transport pour arriver à Abidjan à partir des Féliqués. Il y a des gens qui viennent vous aborder, ils vous disent, bon, on vous amène dans les plantations, on vous fait travailler. Et voilà. Mais ça, à l'époque, c'était quand même 36 000 francs l'année, vous imaginez. Et puis maintenant, quand ils vous prennent, c'est là que vous allez. Et maintenant, nous, on a réfléchi, moi, j'étais avec mon frère, on a réfléchi, mais tous nos grands frères qui viennent ici, quand ils font 2 ans, ils viennent avec des vélos, la radio, tout ce qui est commode. Voilà, et ça... Ça veut dire qu'ils ont eu quand même un peu d'argent. Mais si vous avez le salaire que je viens de vous dire, oui, vous allez faire combien de temps pour avoir tout ça pour répartir au village? Donc, après, moi, j'ai dit, bon, moi, je vais à Abidjan. Alors, lui, il est allé dans une plantation d'EVA et moi, je suis venu à Abidjan. Oui. Et j'ai dit, j'étais chez mon oncle. Et le soir, on est sortis ensemble et j'ai vu une vitrine où il y avait des vêtements qui sont exposés. Alors, je lui ai dit que je veux faire la couture. Alors, donc... Comme ça, le lendemain, il m'a envoyé sur le couturier, celui qui devrait m'envoyer parce qu'il connaissait la personne, il n'était pas là. Et après, le lendemain, moi, je suis allé chercher moi-même quelqu'un. Il m'a dit, bon, amène quelqu'un qui te connaît. Alors, on va parler avec lui. Et j'ai amené mon oncle. C'est comme ça que j'ai commencé. Bon, il faut savoir que ce n'était pas évident, hein, parce que là, on était 9 à dormir dans l'atelier. Le soir, il fallait enlever les têtes des machines, couler les machines et puis dormir sur les machines parce qu'on n'avait pas de place. Bon, ça, c'est vraiment... Et l'apprentissage réel de ce métier. Et au départ, c'était un métier qui était juste resté réservé à... Non, nos patrons, ce n'étaient pas des créateurs. C'était des gens qui, soit ils sont revenus de France, soit ils cousent. Ce qui est juste pour des événements, c'est pas vraiment... On n'a pas l'imagination de créer. Et puis, il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui pour créer un modèle à Abidjan.
Oui.
Le lendemain, vous l'avez à New York, à Paris, à Tokyo, partout dans le monde. Mais là, c'était pas l'époque, c'était pas comme ça. Et maintenant, après, bon, avec l'avancement, j'ai fait quoi, 9 ans d'apprentissage, 5 ans en apprenant la couture homme.
Et c'est comme ça que l'amour du métier est venu, on va dire.
Voilà, petit à petit, ouais. Oui, c'est venu au fur et à mesure. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on allait à la couture, quelqu'un qui n'avait pas de famille. Ou bien quelqu'un qui n'a pas été loin à l'école,
ouais.
Ou tu n'as pas de parents, ou tu n'as pas de moyens. Donc, tu es obligé de faire ce qu'on appelle l'apprenti tailleur, parce que c'est le métier le plus accessible. Voilà, c'est comme ça qu'on est parti. Mais au fur et à mesure que vous allez, vous vous rendez compte que ce n'est pas un métier qui est réservé vraiment au cancer, c'est un vrai métier. Et donc, ça vous pousse maintenant à aimer ce métier. Après, maintenant, ça devient vraiment une folie, quoi, voilà.
Oui, puisque 9 ans après, vous ouvrez votre premier atelier donc, dans la commune de Trècheville, une commune à laquelle vous êtes resté très attaché, Mathéo.
Oui, c'est attachant, Trècheville. Trècheville, c'est le quartier très africain des villes. Vraiment, vous avez même quand vous... L'inspiration, elle est partout, dans la rue, au marché. Quand vous sortez, vous voyez les femmes même qui vont au marché. La façon dont elle a attaché son foulard, la façon dont elle a attaché son pain, vous voyez, ça vous inspire. Donc, Trècheville, c'est vraiment un quartier d'artistes. Donc, c'est vraiment, ça m'a beaucoup aidé.
Un artiste né à Trècheville, on va dire, et qui devient donc une véritable star, puisqu'il acquiert sa renommée internationale pour avoir habillé le grand Nelson Mandela. L'histoire est très touchante également, puisque c'est Myriam Makeba qui vous a introduit auprès de Nelson Mandela. En fait, elle a acheté des chemises pour lui, et c'est là que la rencontre et que cette belle histoire a commencé, Mathéo. Vous nous la racontez rapidement, parce que je sais que vous la racontez tout le temps. Peut-être que ça devient un peu lassant, mais est-ce qu'on pourrait la connaître, cette histoire, rapidement?
Bon, et effectivement, bon, c'est une histoire qui m'a fait connaître à travers le monde entier. On va dire qu'aujourd'hui, si on parle de Mathéo, c'est aussi, surtout, la rencontre avec le président Mandela, quand je l'ai habillé. Alors, donc, Myriam Makeba est venue, paix à son âme. Et puis, pas qu'elle cousait déjà chez mon patron. J'étais encore plus jeune. Elle cousait chez mon patron. Et quand elle est venue, moi, j'étais plus chez le patron. Le patron est rentré au Sénégal, un de mes patrons. Et voilà, et elle est cherchée à venir chez moi. Quand elle est arrivée, elle dit, bon, elle a vu les chemises que je faisais. Elle dit, mais tiens, ça va plaire au président Mandela. Bon, le Mandela, quand depuis le village, on entendait parler de lui, j'imaginais pas un instant même. Enfin, vous savez, il y a le monde, c'est, les choses arrivent comme ça. Et puis, bon, elle a pris 3 chemises pour aller donner au président Mandela. Pour aller, ensuite, moi, je tremblais tellement que je me dis, bon, écoutez, j'ai pris une chemise, j'ai dit, bon, si vous arrivez, vous lui donnez ça de ma part. Sans que, bon, on ne me connaît pas. Mais bon, quand elle est partie, et à cause d'une chemise, le président Mandela m'a fait une lettre de sa main. Et c'est venu. Et ça, c'était extraordinaire. Et après,
une lettre que vous avez conservée, que vous avez toujours, Patéo?
Oui, bien sûr, je l'ai toujours. parce que je peux pas, c'est incroyable. c'est une lettre qu'on peut pas perdre. Voilà. Et après ça, maintenant, c'est en 1998 que je l'ai rencontré pour la première fois à Ouagadougou, pendant le IA.
Le sommet de l'Union africaine.
Voilà, le IA. Et puis là, à la fin, quand je suis arrivé, pour dire la différence avec celui-là, avec d'autres chefs d'État, parce que lui, je vous assure que quand j'arrivais, il m'a embrassé, puis il a pris ma main avec sa main droite, et puis on marchait dans le jardin. Vous imaginez ça, pour la première fois, vous rencontrez une personne qui ne vous fait même pas peur, voilà. Et puis, il a touché ma tête et il a dit, voilà, il y a pas mal de choses dans cette petite tête-là. C'est comme ça qu'il a dit. Comme moi, je ne parle pas l'anglais, et puis bon, le gars a interprété, il m'a dit ça. Et puis, à la fin, il m'a dit que l'Afrique de demain appartiendrait aux créateurs de richesses.
Ouais.
Bon, là, j'ai posé la question, créateurs de richesses, ça veut dire quoi? Il dit non, en fait, quand vous avez un morceau de bois, vous donnez à un menuisier, vous lui donnez le temps, il vous transforme ce morceau de bois-là en quelque chose d'utile, de vendable ou de richesse, voilà. Il dit, par exemple, il portait une de nos chemises, il dit, voilà, la chemise que je porte, si je vous donne un morceau de tissu, vous allez me transformer ce morceau de tissu-là quelque chose de vendable, de richesse. Voilà, c'est ça, créer la richesse. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vous reste dans votre esprit pendant toute votre vie.
Et surtout que ça a été le début de quelque chose, parce que peut-être que c'est à partir de ce moment-là, ou en tout cas pas très loin, hein, que les présidents et les hommes d'affaires, les grandes personnalités ont commencé à arborer les tissus du continent africain. Et puis d'ailleurs, vous avez enchaîné avec de nombreuses personnalités dans le désordre. Vous avez habillé Kofi Olomide, vous avez habillé Kofi Annan, Henri Konan Bédier, Laurent Gbagbo, Alpha Omar Konaré, etc. Des stars internationales également. Alors c'est vrai qu'à partir de ce moment, on s'est rendu compte que les chefs d'État africains commençaient à délaisser un petit peu le costume pour certains, pour arborer des tenues africaines, Patéo.
Oui, mais ça nous donne justement une idée de dire que ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas, mais c'est parce que tout simplement, il n'y en avait pas. Les chrétiens n'avaient pas aussi fait d'efforts pour faire des choses qui pouvaient les intéresser. Donc, c'était obligé d'aller se vêtir ailleurs. Moi, je pense que c'est ça, en fait, le truc. Donc, aujourd'hui, c'est vrai. Les gens n'ont plus de ce complexe-là de dire, bon, je porte ce qui est africain et je suis complexé, je ne peux pas aller à une telle ou telle chose, à une telle cérémonie ou quelque chose comme ça, non.
Ouais.
Voilà, quand vous arrivez, vous voyez que tout le monde... vous avez... Un jour, je suis allé, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, c'est un président de l'Assemblée de l'Afrique centrale.
Ouais.
Et puis, il m'a dit, je devrais lui prendre les mesures. Je me suis mis à genoux pour lui prendre les mesures. Il dit, non, levez-vous, non, mais c'est pas tout, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit, non, en fait, c'est pour mieux vous prendre les mesures. Alors, il dit à ces gars qui sont venus avec lui de filmer, parce qu'en fait, il faut qu'il monte ça dans son pays, parce qu'on ne trouve pas un attelé comme ça, ou bondé du monde, et puis, en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, les gens, tout le monde, quand on veut s'habiller, c'est un casse-tête, en fait. Il faut forcément aller ailleurs pour chercher. Donc, ça m'a aussi... ça m'a vraiment fait un truc, j'ai dit, mais c'est pas possible. En fait, il faudrait que les Africains sachent qu'on ne peut pas développer l'Afrique avec l'extérieur. Non, l'Afrique doit se développer à partir de l'Afrique. Ça, il n'y a rien à dire. Quoi qu'on dise, le temps que ça mettra, il faudrait qu'on mette ça dans notre tête. Voilà, c'est ça. Nous partons justement, on sait que forcément, pour ça, quand on nous demande la question, mais pourquoi vous habillez les chefs d'État? Non, nous n'avons pas fait pour habiller seulement les chefs d'État. Nous sommes faits pour habiller tout le monde. Voilà. Mais la question est de savoir est-ce qu'ils sont accessibles des fois. Est-ce que les conseillers qui sont là, les donnent vraiment des vrais conseils. Si vous avez, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui conseille son chef d'État de de s'asseoir comme ça, de manger comme ça, d'être comme ça. Si ça ne correspond pas, ça ne ressemble pas à l'Afrique, ça veut dire qu'il a tué son chef. Parce que le chef même va l'être complètement étourdi. Parce qu'il ne comprendra pas. Non, il faut leur dire que de toute façon, on est africain, on restera africain. On n'aura pas, on ne changera pas notre peau, on ne changera pas notre couleur, on ne va pas aller vivre dans notre continent, c'est de l'Afrique. Donc, quel que soit X, là, battons-nous pour que l'Afrique soit vivable. Voilà, c'est tout.
Et d'ailleurs, dernièrement, c'est en avril 2019, c'est la grande maison Dior, de couture Dior, qui est venue vers vous, Pateo, pour une collaboration, puisque vous avez ouvert le défilé de la collection Croisière 2020 de Dior. Ça s'est passé à Marrakech, au Maroc. Vos deux maisons de couture ont décidé donc de rendre hommage à Nelson Mandela. C'est une belle, en tout cas, quelque chose d'assez important également dans une carrière de styliste créateur africain, qu'une grande maison européenne vienne vers vous comme ça, sans vous demander de dénaturer votre travail. Et en fait, c'est le styliste et le créateur africain qu'ils sont venus chercher, Pateo.
Oui, mais je pense que c'est une grande expérience que j'ai vécue. Et je me suis rendu compte que la mode, c'est gigantesque. Quand vous voyez la maison Dior, c'est au niveau du défilé, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé presque tout l'atelier Dior à Marrakech. C'est incroyable. Vous voyez, on présente près de 120 tenues en 45 minutes. Vous voyez, alors que nous, à l'Hôtel d'Ivoire, très souvent, on est là jusqu'à 2h du matin, on est dans les coulisses, on n'arrive pas. Voilà. Donc, tout ça, c'est une différence. Et quand vous voyez, c'est incroyable. C'est-à-dire que en fait, l'histoire, c'est quoi? Ils sont arrivés à Abidjan, ils sont venus à l'atelier Pateo, ils ont été conduits par une dame qui s'appelle Anne Groufili, qui fait des livres sur la mode africaine.
Oui.
Alors, c'est quand ils sont arrivés, alors ils ont regardé les matières avec lesquelles je travaille. En fait, nous, on travaille, nous, on ne paye pas le tissu au marché pour travailler. Toutes nos matières sont faites main. Toutes les matières qu'on travaille. Donc, ils ont regardé, il y a un tissu que nous appelons le moucheté. Alors, madame Maria Grazia, la directrice de la maison de la couture, là. C'est elle qui a, elle a regardé le tissu, elle a dit, mais elle ne savait pas comment c'est fait. Il dit, mais c'est fait, mais. Donc, ils voulaient transformer ça en l'industrialiser, pouvoir faire des chemises Pateo en collaboration avec la maison de Dior pour pouvoir commercialiser. Malheureusement, quand on allait à l'usine, l'usine n'arrive pas à le faire, à reproduire ça. Quand c'est fait, c'est trop beau. C'est-à-dire, c'est trop uni, c'est trop uniforme. Alors qu'ils voulaient la façon dont c'est fait, mais là. C'est-à-dire, il y a des endroits où c'est taché, il y a des endroits où c'est plus clair, ainsi de suite. C'est comme ça que l'histoire est partie. Alors finalement, je pense que c'était une grande expérience pour moi, une grande aventure, et qui m'a apporté aussi que la mode, ce n'est pas aussi comme nous le pensons, mais c'est vraiment une vraie industrie. Et par la suite, ils m'ont invité aussi pour assister à la collection Haute Couture Dior à Paris. Là aussi, le monde que j'ai vu, la façon dont c'est organisé, tout Paris était là. C'est vraiment un niveau où vous ne pouvez pas imaginer. Donc, ça nous encourage toujours d'aller de l'avant, de travailler, de continuer à croire que c'est l'Afrique aussi à son mot à dire dans ce milieu de la mode-là.
Alors, avant de terminer, il y a également les engagements à Pateo, puisque il y a peu, peut-être que c'est une action que vous allez recommencer très bientôt. Vous êtes allé à la rencontre des habitants de certains quartiers défavorisés de la capitale économique ivoirienne à travers des associations, donc pendant les fêtes de Noël, pour offrir des vêtements, 300 vêtements à des ONG, des orphelins. C'est important pour vous également d'être présent pour les personnes les plus vulnérables?
Oui, mais parce qu'en fait, très souvent, quand on se voit heureux, il ne faut pas oublier d'où on vient. Parce que moi, quand j'étais apprenti, je ne pouvais pas. Des fois, j'ai mes têtes, beaucoup de cheveux sur ma tête. Je n'ai pas 25 francs pour me coiffer. À l'époque, pour se coiffer, c'est la Nango, c'était 25 francs CFA. Je ne l'avais pas. Alors aujourd'hui, si moi, je peux dire que chaque jour, je peux changer de vêtements, c'est-à-dire, toutes les semaines, je peux porter 7 vêtements. C'est-à-dire, chaque jour, son vêtement. Ça, c'est, on ne peut pas taper sa poitrine pour dire qu'on est fort, mais c'est l'évolution de la vie. Donc, je ne peux pas oublier que je suis passé par là. Et vous avez des gens qui portent un vêtement peut-être durant 3-4 jours, le même vêtement. Mmh. Alors que nous sommes capables quand même de donner ne serait-ce qu'un minimum à ces gens-là. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a fait ces cadeaux-là. Et une année où on a même envoyé même en Afrique centrale, comme on l'appelle. L'Afrique centrale, Centrafrique, la République centrafricaine.
Ouais,
on a envoyé aussi des vêtements là-bas pour donner aux gens. Donc, au Burkina, Janais, aux frères aussi. Donc, voilà. Là, c'est un minimum pour nous quand même, de toute façon.
Alors, pour terminer, Pateo, vous le voyez, vous le savez mieux que moi, il y a de nombreux stylistes, jeunes, créateurs, en tout cas, qui se lancent dans ce sens et qui proposent aujourd'hui, soit sur Internet ou en vente, des articles, des produits, des vêtements avec ces tissus africains. Alors, au sein de la diaspora, il y a beaucoup, beaucoup de marques qui naissent tous les jours. Si vous pouviez ou vous pourriez donner certains conseils à ceux qui veulent se lancer dans ce sens pour faire avancer la mode africaine, quels seraient ces conseils, Pateo?
Bon, je dirais qu'il faudrait que les enfants, les jeunes gens, aient quand même une petite formation quand même.
Ouais.
Parce qu'il faut, il faut d'abord, c'est vrai, il faut créer, il faut innover. Mais je pense qu'ici, les jeunes sont beaucoup pressés. Très souvent, ils disent « je vais créer ma marque ». Vous n'avez pas une marque. On travaille du fait, ça devient une marque, mais on ne peut pas créer une marque. On ne peut pas toujours dire « créer une marque ». On grabouille un dessin sur un polo et met sur les réseaux sociaux, on dit « c'est une marque ». Et on donne un nom américain pour dire « c'est une marque ». Ce n'est pas une marque. Non, la marque ne se crée pas comme ça. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Donc, je lui ai dit non. Apprenez un peu ce métier. Apprenez un peu, ne serait-ce que comment plier une chemise pour mettre dans un carton, déjà. Alors, donc, vous ne pouvez pas pouvoir simplement voir l'image, parce que c'est vrai que la venue des réseaux sociaux, il y a son côté bénéfique, il y a aussi son côté négatif. Parce que si vous croyez que vous n'allez pas, qu'il n'y a pas de suite, ça vous tue.
Ouais.
Donc, il faudra que les gens apprennent quand même ce métier-là, avoir une toute petite peu de patience, et puis avoir beaucoup de conseils auprès des aînés aussi. Voilà, j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui ont des conseils, mais très souvent, je voudrais te raconter une petite histoire.
Allez-y.
Il y a un enfant d'un premier ministre d'un pays qui est venu apprendre le métier. Bon, ok, je l'aimais tellement parce qu'il était toujours bien habillé, voulait à tout prix connaître le métier vite. Alors, quand je sors pour aller payer les fournitures, il va avec moi. Donc, on est allé à Djamé. À Djamé, c'est le quartier, un des quartiers à Abidjan. On arrive, on paye le tout, on met dans un carton. Bon, donc il faut transporter ça maintenant à la voiture. Donc le petit, au moins, on se regarde. Alors, en temps, lui, il a fait les cheveux curling. Vous connaissez les cheveux qu'on mouille. Bon, il a pris sa main, il a tâté sa cheveux. J'ai compris qu'il ne peut pas mettre le carton sur sa tête. Moi, j'ai pris, j'ai porté, j'ai dit, allons. Et puis, arrivé dans la voiture, je l'ai dit, petit, il faut changer de métier.
En tout cas.
Il ne peut pas. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est effet. On voit tellement de choses dans ces milieux, c'est incroyable. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Voilà.
Pateo, je vais vous laisser conclure. Je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être qu'il y a un message particulier, il y a quelque chose en particulier que vous avez envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent avant de nous quitter.
Moi, si j'ai un message, un vrai message vraiment à donner, c'est que bon, nous souhaitons que l'Afrique connaisse quand même la tranquillité, la paix, voilà.
Ouais.
Comme en Côte d'Ivoire, je vis en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous disons, parce que on nous dit, quand on vous dit que quand vous allez dans un autre pays, vous avez deux choix. Vous êtes comme des poissons dans l'eau. Un poisson, quand il est dans l'eau, il y a deux choses. Il a peur de deux choses. Que l'eau ne tarisse ou que l'eau ne chauffe. Donc, quand nous sommes là, nous prions que la Côte d'Ivoire soit tranquille, que la Côte d'Ivoire soit froide. Voilà, donc nous souhaitons ça comme... Hier, les deux patrons de la Côte d'Ivoire se sont rencontrés. C'est vraiment un succès. On pense que ça nous a soulagés tous parce que quand vous n'avez pas le temps, ou du moins quand vous avez peur de sortir, c'est un problème.
Ouais.
Et je pense vraiment que, et je prie vraiment que la paix revienne en Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup, Pateo. Merci beaucoup pour ce moment très agréable et très enrichissant. Merci de vous être rendu disponible et d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios du côté d'Abidjan. On vous salue, on vous souhaite beaucoup de belles choses pour la suite. Merci beaucoup, Pateo.
C'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci pour l'initiative et puis que vous pensez que aussi la mode aussi fait partie aussi des éléments qui peuvent pousser l'Afrique vers l'avant.
Merci beaucoup et j'en profite pour saluer Fatou Yatabari qui est elle aussi une véritable passionnée de mode. Merci beaucoup à Fatou, Léonce Kouakou et Al-Khalif Adiga. On salue toutes les équipes et on se retrouve demain avec le dernier invité de la semaine à Babi.